Ils ont, dans, indépendamment de leur qualité propre, Nistar, mais dans le Niglé, ils ont, si vous voulez, le même critère, c'est qu'ils traitent du fait juif du point de vue des critères de la culture extérieure. Alors que nous avons besoin d'abord de la perspective inverse. D'abord, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le fait culturel contemporain du point de vue des critères de l'histoire juive pris dans la conscience. C'est clair? Voilà ce que je propose de faire le Rabutner grâce au à travers le Maharal sur ce point particulier. Comment comprendre l'identité culturelle grecque du point de vue de la conscience juive, de telle sorte de comprendre pourquoi la conscience juive a eu un jugement ambivalent sur la culture grecque. D'un côté, condamnation totale, c'est l'obscurité. De l'autre côté, félicitation absolue, cas particulier dans l'histoire du monde, on ne traduira les livres de la Bible qu'en grec, parce que c'est ça la beauté de Japheth, dont il a été dit qu'elle aura une résidence dans les tentes de Shem. Ça tournait mal. L'histoire a montré que c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'on a fait dans le monde de la fameuse traduction des Septante? C'est de ça qu'il s'agit. À partir de la traduction en grec des livres de la Bible, qu'est-ce qu'il est sorti dans le monde du visage de la prophétie hébraïque? Demandez ça aux théologiens de l'Église. C'est la Grèce réussissant à dire « c'est moi Israël, et toi les Juifs, tu n'es plus Israël ». Vous avez compris l'issue. Mais à l'origine, à la racine, voilà la position de la conscience judéenne par rapport à ce phénomène. On dira, je pense que nous aurons à nous y référer, surtout les grands théologiens du Moyen-Âge ont fait une distinction absolue entre la pensée grecque et la langue grecque. Non seulement la langue grecque est autorisée, mais elle est félicitée. Si nous devions parler la langue du monde, l'humanisme, il faut parler grec. Voilà ce que disent les rabbins. C'est la plus belle langue au monde, la plus belle langue de l'homme du monde, dans le sens étymologique de la mondanité, je veux dire de l'humanisme, de l'immanence. La nature, en fin de compte, est devenue grecque en l'homme. C'est la nature qui est devenue grecque en l'homme. Le ciel est devenu hébreu en l'homme. Mais si nous devions parler la langue de la terre, c'est le grec. La langue, la pensée grecque, les Machéwachem, la pensée grecque, surtout lorsqu'elle traite du contenu de la prophétie hébraïque, de ce qui vient du ciel, alors ça c'est l'obscurité. Mais la langue grecque c'est différent. Je me réfère en tout cas au psaque qui a été donné par Rabbi Semach Duran, qui est un des grands derniers des grands d'Algérie, le grand rabbin d'Alger, Rabbi Semach Duran, qui est connu, pour ceux qui ont encore cette mémoire algérienne, mais qui est connu du monde entier, c'était une autorité mondiale, qui dans son commentaire sur les Pirkei Avot, qui s'appelle le Magen Abraham, a établi ce psaque en disant, pour comprendre les sources concernant le jugement porté sur la Grèce, il faut faire une distinction absolue entre la pensée grecque qui est rejetée et la langue grecque que le Talmud a habité. Problème, est-ce que l'un va sans l'autre? Comment se sortir de cette... ça, nous aurons tout le loisir aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin de la semaine pour nous colter avec ce problème. Mais je voudrais d'abord noter cette note-là, distinguer entre la langue grecque dont parle la source de Megillah que je viens de vous donner et ce qu'on pourrait appeler la pensée grecque, les catégories grecques, etc. Et en fin de compte, nous savons que la traduction de la Bible en grec a eu des résultats catastrophiques. Mais c'était la seule traduction autorisable, parce que c'est là que le génie de Japheth a réalisé la prophétie à Noir que la beauté de Japheth a le droit légitime de résider dans les tentes de Shem. C'est-à-dire, si nous devions lire la Bible aussi, j'ajoute aussi, au titre d'un des humanismes, ça ne peut se faire qu'en grec. Et dans la mesure où cette prétention à ce que la Bible n'est qu'un déshumanisme a triomphé, ça a été catastrophique. Mais dans la mesure où on savait faire la distinction, la Bible, qui est la parole du ciel sur la terre, pour être lue par les hommes de la terre, peut être lue en grec, ça c'était le jugement positif. La pensée grecque, ça c'est l'obscurité. La langue grecque, ça c'est la beauté. Voilà un peu ce que nous atteignons déjà comme analyse, mais ce n'est pas suffisant, il faudra aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi et en quoi, et très rapidement, j'espère, déjà aujourd'hui, nous allons voir avec le Rabutner. Alors, où est-ce que je suis? Nous abordons la deuxième page. Bon, je crois qu'il faut... faut dire aussi, chez Rianou, je crois que c'est la première fois dans un séminaire où on arrive à aborder la deuxième page de la première. Midibrehem, chez Lévi. Des paroles du prophète. Là, nous trouvons dans un verset de la prophétie. Nous apprenons, si Yesharim d'Arke Hachem, les voies du Seigneur sont droites. Et c'est moi qui traduis le Seigneur. Hein. Les voies de Hachem sont droites. Yachar. Tzadikim yelechuvam. Les justes les suivent. Ou pochim ykashuvam. Mais les pécheurs y trébuchent. C'est-à-dire le même chemin. Celui qui est tzadik marche droit. Celui qui est pochéar, le même chemin, trébuche dans ce chemin. Un point d'histoire au moment du commencement de la querelle entre les chassidim et les mitnagdim. Je ne sais pas si vous savez cela. Les mitnagdim avaient l'habitude de citer le verset pour attaquer les chassidim en disant Yesharim d'Arke Hashem, Tzadikim Yerechubam, Vachassidim Yikashubam. Vous avez entendu. Bon, c'est un point d'histoire. Mais comme l'histoire continue, c'est toujours un point d'histoire. Bien. Ça va faire plaisir à mon collègue. Alors, à partir de ce principe, nous allons comprendre, dit le Rauchner, qu'est-ce qui est arrivé entre la Judée et la Grèce, entre Israël et Yavan. Cloma, voilà ce que veut dire ce verset. Vous êtes à la deuxième ligne de la deuxième page. Vevadai she'ato ve'arach nedrachime. C'est évident que le bien et le mal sont deux voies différentes. Et leur opposition vient de l'inversion, de la contradiction qu'il y a dans leurs objectifs. Mais il arrive que le principe de l'opposition entre le bien et le mal soit beaucoup plus profond que ce qu'on ne perçoit superficiellement. C'est-à-dire, c'est-à-dire lorsque, dans l'apparence extérieure, dans l'éclairage qu'ils donnent à leur visage, à leurs propos, ils ont le même objectif. Et il s'agit du bien et du mal. Ici c'est un peu poétique comme style. Les deux marchent de conserve. Okay? De concert. Vous êtes sûr que ce n'est pas de concert? Eh bien, vérifiez dans le Larousse.
C'est pas d'appât, okay. pas non?
Non, ils marchent ensemble, parallèles. Okay. Soradim, ils vont en voyage ensemble. Hemschneir, Al-Gabé Otoachville, sur le même chemin. Atzmo, le même chemin lui-même. Ou Mikomakom, Zeoler, Komemiyud, Vedenirchal. Et cependant, sur le même chemin, l'un va marcher droit. Et l'autre, droit, dressé, comme un minou, comme on dit dans le Birkat Hamazon. Okay? Et puis l'autre, Mirchal, l'autre, trébuche. Dakka auto partout, le même visage, chez l'arabe, du mal, Asher Nekudot Amagar, chez l'eau, Imatov, Merubot, Embeyotev. C'est en particulier lorsque les points de contact entre le mal et le bien sont le plus nombreux. Que ce visage du mal, en ce cas, lorsque le mal ressemble le plus au bien, c'est d'Afka, précisément, en particulier, au Topartsouf, que ce visage, Mahamik Huitaïtanoun, approfondit le plus l'opposition au bien. Je veux dire que c'est quand le mal ressemble le plus au bien que le mal est plus opposé au bien. Nous avons eu souvent cette analyse dans un autre vocabulaire. C'est l'approximation de la vérité qui est la plus dangereuse. Elle apparaît comme étant la proximité la plus grande, mais c'est précisément parce qu'il y a plus de proximité que l'approximation est plus grave en tant qu'approximation, c'est-à-dire qu'en réalité l'opposition est la plus grande. Voilà ce qu'on va nous dire comme principe au commencement. Umikivun, umichavem, et milchamto, klape shorshav shelato. Et c'est dans ce cas que la voie du mal qui ressemble plus à celle du bien, est en réalité dans une détermination beaucoup plus grande de lutte contre le bien. Besharat she'asina mitfaretzet ben krobim. Autre cas, c'est lorsque, par exemple, la haine apparaît entre des gens proches, Harehim Amika et Chorché Armeyote, cette haine est beaucoup plus profonde dans sa racine, Mi Asher Beshaashi Mitparetzet Ben Rechotu, que lorsque la haine oppose des gens loin l'un à l'autre. La haine la plus dangereuse, la plus grave, c'est la haine des gens qui sont les plus proches l'un de l'autre. C'est un autre cas du même principe. Le mal qui ressemble plus au bien est plus dangereux pour le bien que le mal qui lui ressemble moins. C'est très clair. Lorsque le Satan vient avec un visage de Satan, il n'est pas dangereux. Je sais à qui j'ai affaire. Lorsque le Satan vient avec un visage de tzadik, là il est dangereux, parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et je peux croire que la proximité cache le danger d'approximation, cache l'éloignement. Vous voyez, nous aurions une dialectique ici, dans la notion d'approximation, c'est là où les choses sont le plus près, mais que près, qu'elles sont en réalité les plus lointaines, les plus loin, les plus opposées. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous pouvez rattacher cela à l'explication de ce mystère des guerres fratricides. Les frères sont beaucoup plus en haine dans leur guerre que les cousins ou les lointains. Je ne sais pas comment dire ça en français. Ou bien de l'analyse des guerres de religion, des l'hérésie. À partir d'une nuance dans l'hérésie, les guerres les plus terribles, alors que lorsqu'on a affaire à la doctrine la plus opposée, la guerre est moins grave. Vous voyez, tout cela va dans le même sens. Lorsque la Torah a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il faut prendre ça à la lettre, parce que c'est avec le prochain que le risque d'agressivité est le plus dangereux. Avec le lointain, c'est pas grave. Aimer le lointain, ça n'engage à rien. Aimer le prochain, c'est cela qui est le problème. Je pense que c'est une amour. Par exemple, il y a énormément de juifs qui aiment leurs prochains lointains, mais qui n'aiment pas les juifs. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de doctrine. L'amour du prochain chez les juifs, c'est très répandu. Mais on aime tous les prochains, sauf les juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le voisin qui est candidat à l'amour, beaucoup plus que le lointain. Et alors, bon, c'est pas la peine d'analyser, je pense que c'est clair. C'est pas seulement un défaut juif, c'est un défaut humain, dans la mesure où les juifs sont des hommes, les avons et nous. Alors, on en fait. Et voilà, on va d'abord découvrir un visage de la Grèce très proche d'Israël. Mais c'est ce visage très proche d'Israël qu'on a félicité. Mais c'est dans le fait qu'il n'est que proche qu'il va y avoir la takala, c'est-à-dire l'accident de parcours, et donc le deuxième élément du jugement, le jugement des Grecs. Alors là, nous abordons un thème très familier au Rav Boutner, et donc au Rav Al d'abord, et qui est un thème important pour lui-même. C'est la deuxième introduction. Veiné, or voici, Ratzon Hashem, la volonté de Dieu, je dirais ici la volonté du Créateur. Quoique pour étudier bien précisément cet enseignement, il faut bien comprendre qu'ici, le Rav Boutner a voulu dire Hashem, Yudke Vavke, et non pas Eloki. Okay? C'est-à-dire la volonté de celui qui est Créateur. Ratzon Hashem. Mitgalet, lanou, bishte, maharachot. Il y a ici une impropriété en hébreu, c'est pas grave, on n'est pas en linguistique. Se dévoile à nous dans deux dispositions, par deux médiations. La volonté du Créateur se dévoile à nous de deux manières. Maharachahat, une des premières dispositions, je dirais médiation, si le terme est suffisamment clair, mais maharachet le échit. Dans le récit de l'œuvre du commencement, dans le récit de la création. Ba'olam shenibra be'asara ma'amao. Le monde créé à travers les 10 paroles du commencement. C'est-à-dire, nous avons ici un thème très classique et très important de la tradition juive. Nous pouvons connaître la volonté du Créateur, premièrement dans l'étude du monde, qui a créé par les 10 paroles de Dieu, été créé par les 10 paroles de Dieu. Et ça, c'est les Asara Mahamaot. 10 fois que la Torah a dit, et Dieu dit que la lumière soit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, c'est Dieu créateur dont nous connaissons la volonté, en fin de compte à la limite, à travers l'étude des sciences. Puisque les sciences étudient les phénomènes du monde, du point de vue de l'homme de la Bible, les sciences étudiant les phénomènes du monde nous dévoilent la volonté du créateur, le Dieu que nous reconnaissons, d'autre part, dans sa révélation de la Torah. Nous sommes en monothéisme. Et en monothéisme, il est bien évident, c'est un problème pour lui-même, un chapitre pour lui-même, très important. Il est bien évident qu'en monothéisme strict et conséquent, Étudier les phénomènes du monde, c'est étudier la volonté du Créateur. Et c'est pourquoi, chez les rabbins, ça a toujours été considéré comme une entreprise sainte. Et ce n'est pas que lorsque je reprends ici la fameuse phrase de Pasteur, la différence entre l'oratoire et le laboratoire, ce n'est pas que lorsqu'on entre dans l'oratoire, on est en situation de sainteté. Lorsqu'on entre aussi dans le laboratoire, on est en situation de sainteté, parce que qu'est-ce que va faire le savant s'il est honnêtement monothéiste? Il étudiant les phénomènes du monde, la volonté du Créateur qui lui a décidé que ça fonctionne ainsi et pas autrement. Et c'est pourquoi, en particulier au Moyen-Âge, au temps de l'obscurantisme, entre guillemets, parce que tout le monde n'était pas obscur, au Moyen-Âge, il y avait dans les abbayes, et il y avait chez les moines, il y avait une science extraordinaire, une sagesse, disons, extraordinaire, qui n'est pas la nôtre, mais c'était un niveau de culture considérable, mais, la cité était obscurantiste. Mais pas, ça ne veut pas dire que les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas de grands penseurs, et peut-être qu'ils étaient plus grands que nous, les modernes. Mais c'est un autre problème, mais si vous voulez, il y a m'autorisé par le Mishnah du Birkavot, à Omer Richon Richon, à Haron à Haron, celui qui dit, de qui on peut dire qu'il est cohérent, celui qui dit que le premier c'est le premier, que le dernier c'est le dernier. On peut le lire comme cela, où il y a cohérence logique. Du premier je dis que c'est le premier, du dernier je dis que c'est le dernier. Mais on peut le lire de cette manière, celui qui reconnaît au premier leur rang de premier, de celui-là on pourra dire à Haron à Haron Haviv. De celui-là, on pourra dire que celui qui vient en dernier lieu est supérieur parce qu'il vient après. Mais il est, suivant une image que la Midrash nous donne, comme un nain monté sur des épaules de géants. Pourquoi les modernes sont grands? Parce qu'ils sont un peu plus grands que ces géants du Moyen-Âge. Est-ce que c'est clair? Sans eux, nous serions des petits nains sur Terre. Mais nous sommes des petits nains montés sur des épaules de géants. Alors on va un petit peu plus loin. Mais c'est parce qu'eux nous ont donné les lunettes. Enfin, vous comprenez le problème. Et vous n'avez aucune idée à quel point, dans l'atmosphère traditionnelle juive, ceci est très important. On peut donner son prix, son poids, sa valeur à une glose d'un moderne que si vraiment c'est la glose d'un ancien. Parce que c'est les anciens qui ont dit les premières paroles. Et sans eux, rien n'a de sens dans une tradition. Si on oublie nos maîtres du Moyen-Âge, nous ne sommes rien. Comment quelqu'un qui se met à la place de Rashi, c'est tout simplement qu'on ne sait pas qu'il est ignorant. Il ne le sait pas lui-même. Vous voyez ce que j'ai essayé d'exprimer. Quand quelqu'un dit, Rashi a dit que, et moi je dis que, alors en milieu traditionnel, on sait très bien. Diagnostic d'imbécilité infantile. Ça doit être une maladie clinique catalogable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement de l'infantilisme. Bon, c'est clair. Je ferme la parenthèse. Bon. Non, si vous voulez qu'on la ouvre, c'est un sujet pour lui-même. Bien, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est la position des rabbins au Moyen-Âge, lorsqu'on accusait de sorciers ceux qui entraient dans les laboratoires, on les accusait de sorciers, de sortilèges, d'alchimistes, tous ces problèmes-là, magiciens, magiciens. Eh bien, les rabbins avaient conscience que lorsqu'ils étudiaient, et vous savez qu'il y avait des rabbins savants dans le sens moderne du terme, connaissaient ce qui a fini par être des légendes, parce qu'on a perdu la mémoire, Rabbi Yehiel de Paris, qui s'éclairait à l'électricité, vous connaissez toutes ces traditions, d'accord? Non, vous ne savez pas, avant Volta. Bon. Eh bien, la somme de connaissances scientifiques que pas toujours les modernes ont déjà atteinte, pour comprendre telle ou telle page de Gemara qui parle de problèmes de médecine ou d'astronomie, de calendrier ou de biologie pour la cacheroute, vous comprenez? Et alors, il y a là la trace d'une capacité scientifique dans le sens moderne du terme, autant dit obscur du Moyen-Âge, mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tout le monde n'était pas obscur, c'était la cité qui était, disons, obscurantiste, mais il y avait les sages du Moyen-Âge. En tout cas, en milieu juif, le respect que nous avons pour les maîtres du Moyen-Âge est une mahala pour lui-même, vous comprenez? Ça n'a pas la même autorité si on cite un rabbin du Moyen-Âge ou si on cite un contemporain. Ça y est, c'est suffisamment clair. À plus forte raison, lorsqu'on cite les autorités du Talmud, c'est-à-dire il y a 2500 ans. Je vous citerai rien que ce qu'a dit Maïmonide en citant le Talmud. Dans le Talmud, il y a ceci. Les Amoraïm, c'est-à-dire les disciples des Tanaïm, parlant des hommes de la prophétie, du temps des prophètes, disaient « Si eux étaient des anges, nous sommes des hommes. Mais si eux étaient des hommes, nous sommes des âmes. » Ça, c'est ce que les Talmudistes disaient. Maïmonide, citant le Talmud, dit, en parlant de sa génération, et des gens du Talmud disaient « Si eux étaient des anges, nous, nous sommes... » Maïmonide parle. Il faut savoir que c'est Maïmonide. « Si eux étaient des anges, nous sommes des hommes, mais si eux étaient des hommes, nous sommes des âmes. » Maïmonide disant, alors nous, citant Maïmonide, citant les Amoraïs, citant... Imaginez. Il faut bien savoir que ça a été vrai pour toutes les traditions, mais que probablement c'est resté vraiment que dans la tradition juive. Traditionnelle, c'est-à-dire les perspectives de l'autorité de qui dit quoi. C'est clair. Bon. Alors en tout cas, je referme cette parenthèse, il est bien évident que ce que nous dit le Ravitner ici nous est très lié. Pour un juif, faire la science, c'est kadosh. Et alors, les rabbins du Moyen-Âge, avant d'entrer dans le laboratoire, prenaient la tevila, parce qu'ils allaient entrer dans l'intimité du secret de la volonté du Créateur. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je sais très bien que dans beaucoup de communautés piétistes, je ne veux pas employer d'autres adjectifs, on a la science en horreur. Mais ça vient d'un dualisme provenant de l'obscurantisme chrétien, du dualisme piétiste chrétien. Je n'en ai jamais l'obscurantisme. À cause de quoi? À cause de tout ce problème que vous connaissez, c'est que de la science vient la technique, et que la technique sans la moralité, c'est la destruction du monde. Et donc la science est imputée des ravages des techniciens immoraux. Quand je dis techniciens, ça veut dire les fabricants de canons, les fabricants de bombes atomiques, les fabricants de tous les procédés de jouissance qui risquent de mettre la planète à feu et à sang. Lorsque la science, bon, vous rappelez Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est vrai, c'est un problème pour lui-même, mais il n'en reste pas moins que du point de vue de la racine de ce problème, un monothéiste conséquent, c'est que faire la science positive, sans interprétation philosophique qui fait dériver les données scientifiques dans des doctrines proprement philosophiques, nous retrouverons là tout à l'heure ou demain la différence entre langue grecque et pensée grecque. Là, nous avons la différence entre science et philosophie sur la science. Par exemple, les méthodes positives de l'exploration des phénomènes sont cachères. Le positivisme comme doctrine sur la science, ça c'est déjà une philosophie, et ça c'est déjà une conception du monde dont l'inspiration spirituelle est opposée à la Torah. Est-ce que c'est clair? La pratique de la méthode scientifique, c'est une chose, lorsqu'elle est authentique et honnête, elle est pour nous monothéistes l'exploration de la volonté du Créateur, et à manier avec précaution. Okay? Mais l'interprétation philosophique des données de l'observation, ça c'est déjà de la philosophie, c'est plus de la science, c'est de l'hypothèse philosophique. Je pense surtout à un problème qui préoccupe beaucoup les esprits depuis quelques générations, le problème de l'évolutionnisme, par exemple. Les données de l'observation, c'est une chose, l'interprétation philosophique du savant, mais qui se fait philosophe pour interpréter, qu'il soit Lamarck, Darwin, De Vries ou le néo-darwinisme, Spencer, Bergson, tout ce que vous voudrez, ça c'est de la philosophie, ça c'est déjà une interprétation de lecture de l'observation. L'observation, elle, eh bien la Torah a sa propre lecture. Mais le donné de l'observation, ça c'est le résultat. Quelque phénomène que ce soit cette fois, pas seulement la paléontologie, mais quelque science que ce soit, ça c'est pourquoi les phénomènes fonctionnent comme ils fonctionnent, c'est le Créateur qui l'a voulu. La loi de nature, lorsqu'elle est authentique, c'est l'expression de la volonté du Créateur. Là, je voudrais bien que nous découvrions cela, la position orthodoxe de la Torah en tant que monothéiste par rapport à la science. Si la science est l'exploration du fonctionnement du monde que Dieu a créé, ça c'est la formule monothéiste, alors faire la science, c'est explorer la volonté de Dieu. Donc, œuvre de sainteté, on comprend pourquoi on nous dit que les rabbins du Moyen-Âge prenaient la mikvé avant de rentrer au laboratoire. Est-ce que c'est clair? Je reviens à ce que je disais immédiatement. Je sais très bien qu'il y a toute une position d'horreur de la science dans les milieux piétistes, mais ça vient de l'immoralité des techniciens, pas de la pas de l'impureté de l'entreprise sainte. Or, nous ne sommes pas à ce niveau spirituel de redécouvrir que lorsqu'on étudie de la physique ou de la chimie ou de l'optique ou de la magnétique, on est en situation de sainteté périlleuse parce qu'on rentre dans le laboratoire du Créateur. Vous avez compris dans le problème. Mais encore une fois, la piété orthodoxe, c'est que faire la science, c'est kadosh. C'est pas seulement kasher, c'est kadosh. À condition que ce soit de la science qu'on fait, et pas de la philosophie. Dans la philosophie, on va se travailler avec les Grecs tout à l'heure. Est-ce que c'est clair, monsieur? Vous avez une question dans le sujet? Très bien. Et alors, voilà donc la première ma'aracha, la première médiation par laquelle Dieu révèle sa volonté, en tant que créateur, donc à travers les lois de la nature. Et ça, c'est spécifique au monothéisme juif. Dans la mentalité, même musulmane parfois, mais surtout chrétienne, on a tendance à comprendre la volonté de Dieu que dans le miracle, pas dans la loi de la nature, c'est-à-dire que dans l'exception à la loi de la nature. Et la loi de la nature est renvoyée à Satan, okay, le prince de ce monde. Vous comprenez où ça va? Tandis que dans la perspective hébraïque, c'est un monothéisme intégral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une souveraineté à l'origine de l'être du monde. Par conséquent, les lois qui régissent le fonctionnement des phénomènes, c'est la volonté de ce même Dieu qui a révélé la Torah comme l'Orah. C'est la difficulté et en même temps la richesse du monothéisme hébreu dans son caractère propre. Que l'un, c'est l'autre. Que celui qui a créé le monde, d'où les données de la physique, de l'optique, et en fin de compte que la locomotive marche pour nous permettre d'arriver au rendez-vous du Shabbat à l'heure. Que les frigidaires marchent pour nous permettre de boire frais après la sieste du Shabbat. Non, je ne dis pas les blagues. C'est-à-dire que, ça y est, c'est clair, que la vie sur Terre soit aménagée, eh bien, cela dérive de la volonté du Créateur en tant que Créateur, et d'autre part, la révélation de la loi morale. Je crois qu'il n'y a qu'en milieu juif traditionnel que l'on trouve ce cas particulier du monothéisme intégral, que celui qui a donné les lois de la morale et que celui qui a donné les lois de la nature, c'est le même Hachem. Hachem ou Elohim. C'est clair. Beaucoup d'autres traditions religieuses le savent, l'ont entendu des Hébreux, le disent, mais c'est de l'orthologie, c'est de l'orthodoxie de langage. Mais ils se comportent comme s'il y avait là deux souverainetés opposées l'une à l'autre. Et l'apparence leur donne raison. L'apparence, c'est que quel rapport entre les lois scientifiques et le Shulchan Aruch. Ça, c'est l'apparence. Mais il faut revenir à la racine hébraïque qu'il n'y a jamais eu Shulchan Aruch dans l'histoire d'Israël que parce qu'il y avait la conviction que cette loi a été donnée dans le monde créé par celui qui a donné cette loi. Sinon, elle serait impraticable. Et sinon, le monde ne serait pas vivable. Ça y est, c'est évidemment clair. Là, je crois qu'il faut se par la médiation, la ma'alacha, la programmation, si vous voulez, des lois de la nature, c'est Asara Mahamarot, risque aujourd'hui, en milieu traditionnel, mais qui s'est coupé de ses sources, d'apparaître comme étrange. Quoi, de quoi tu parles? De la science, des savants, sous le trèfle. Vous voyez la réaction échimique, si j'ose dire, immanquable. Nous reprenons ce problème au bénéfice de la distinction entre la science vraiment positive et d'autre part, les hypothèses philosophiques sur le donné des sciences. Ça, nous abordons des conceptions du monde opposées à la Torah. Mais il faut s'habituer, et malheureusement, très peu de savants arrivent eux-mêmes à faire la distinction entre ce qui est science et ce qui est philosophie sur la science. Je ne parle pas de la philosophie des sciences, qui est la philosophie de la méthode des sciences, mais conception du monde philosophique à travers la mode scientifique du temps. Vous aviez une question?
Vous avez dit que les observations scientifiques se correspondent en comportement juif traditionnel. Or, la formulation de théorie de la science qui fait partie de l'observation, qui s'enchaîne avec l'observation, comment trace-t-on la frontière entre
les... Eh bien justement, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais c'est-à-dire que nous avons une tradition de lecture du monde à travers les textes de la tradition qui nous permet de lire le phénomène de telle sorte de comprendre en quoi c'est homogène avec ce que dit la Torah comme révélation. Et si on est coupé de cette tradition de lecture du monde d'après la conscience d'Israël, alors on est désorienté. Et on n'arrive pas à faire la distinction entre le donné positif, strict, de l'observation et ce qui est interprétation de l'observateur lui-même, parfois. Vous connaissez ce thème d'épistémologie qu'on appelle le système clos. Le système clos entre l'observateur et l'objet de l'observation. Et finalement, l'observateur modifie au niveau de l'observation ce qu'il observe, d'après son préjugé, si j'ose dire. Okay? Vous connaissez ce système. Or, en particulier pour notre sujet, ce que le Rabutner veut nous aider à faire, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens sur ce point, c'est très relié, c'est que nous sommes habitués à l'observation du fait juif par l'observateur grec. Il veut nous habituer à l'observation du fait grec par l'observation, par l'observateur juif. C'est-à-dire, nous devons nous viser en même temps, hébraïser, pour pouvoir nous retrouver nous-mêmes. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous enchaînons. Il nous reste encore une bonne demi-heure pour aujourd'hui. Et je voudrais qu'on arrive à finir au moins cette page.
Okay. Je ne vois pas le terme de kadosh qui est parlé de la science.
Écoutez, si je m'approche de ce que j'appelle ratson aboré, la volonté du Créateur, eh bien, je suis en situation de relation de sainteté. Okay. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est la relation avec la source de toute sainteté qui est Dieu. Ici, en tant que Créateur, nous les modernes, nous avons perdu cette expérience de la conscience de piété du Moyen-Âge qui, lorsqu'ils exploraient un phénomène de ce que nous appelons nous les lois de la nature, avaient conscience d'entrer en intimité avec la volonté du Créateur, les mots ayant leur sens simple, c'est-à-dire d'être en présence de ratson aboré, de la volonté de Dieu. Et donc c'est une situation qui impose la ferveur, qui impose la piété. C'est une situation qui imposait les règles de la tahara, de la purification de sainteté. C'est-à-dire, un juif pieux ne peut pas faire une expérience de laboratoire, regarder dans son microscope, sans avoir pris la tevila. De la même manière qu'un juif pieux ne peut pas écrire le Sefer Torah sans avoir pris la tevila. Nous avons perdu cette piété-là. On s'est gaullicisé à ce niveau-là. Vous connaissez ce que je dis ? C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il nous faut récupérer ? Quand je regarde dans le microscope, je regarde Dieu agir. Mais alors, Fahadul Ada, Kdusha, Tvila, je m'approche du Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le monothéisme hébreu. Alors que pour les goïms, quand ils regardent dans le microscope, ils espèrent voler au Satan les secrets de la magie. Vous voyez à peu près la limite, n'est-ce pas ? À la limite, quelle est la différence ? C'est pourquoi j'ai été beaucoup frappé par cette phrase de Pasteur que M. Neher aime souvent citer, le laboratoire et l'oratoire. Et alors pour Pasteur qui est chrétien, eh bien c'est deux mondes radicalement différents. Quand je suis dans le laboratoire, je ne suis pas dans l'oratoire, et réciproquement. Mais pour un juif, dans l'oratoire et dans l'oratoire et dans le laboratoire, c'est le même Dieu que je rencontre. Alors imagine à quel point nous avons été dualisés, n'est-ce pas ? La catastrophe, c'est que le juif n'est juif qu'à la synagogue, qu'à l'oratoire. Et finalement, nous ne savons plus ce que nous disons en disant Dieu est un. Okay? Non seulement le regard a perdu sa force, c'est que nous ne savons plus lire les psaumes et nous ne savons plus regarder dans le microscope. Parce que nous avons perdu cette identité hébraïque que l'un c'est l'autre, que Hachem ou Elohim. Nous sommes des hommes, j'allais dire des juifs, mais en tant qu'hommes, complètement dilués avec ces hachamim qui parlaient au niveau du monothéisme. Lorsqu'ils nous disent que Dieu se révèle dans les 10 Mahamarot de Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, de la création du monde, finalement c'est quoi ? C'est les lois de la nature. Et qu'ils nous disent que Dieu se révèle dans les 10 commandements du Sinaï. Finalement c'est quoi ? C'est la loi morale. Et de nous dire que l'un c'est l'autre, c'est la communauté des valeurs. Et alors, je profite de ce que tu viens de dire. Réciproquement, quand nous étudions le Shulchan Aruch, il faut l'étudier avec toute notre connaissance du monde créé. Et quand nous étudions le monde créé, il faut l'étudier avec toute notre connaissance de la loi morale et du Shulchan Aruch. Mais nous avons été coupés en deux. Nous avons été coupés entre le juif de la piété à la synagogue et quoi ? Et le juif déjudaïsé dans le monde. Nous ne sommes plus des Hébreux. Vous voyez quel est l'objectif de lutter, de vaincre la Grèce ? C'est de redevenir Hébreux. Hébreux dans le sens de ce monothéisme strict, très bien. Okay. Bien, si vous avez une question vraiment sur le sujet, pour que nous puissions avancer de tel, je voulais en tout cas finir le paragraphe. Quel? Et c'était M. Lavaux.
Un peu plus loin, il y a marqué que celui qui connaît le mouvement des qui sont des intérêts, on a le droit d'adresser la parole.
Oui.
Est-ce que
c'est
pour
cette raison-là? C'est la même chose, et ça apporte de loi dans lequel on est capable de lire le mouvement des planètes. Okay. C'est-à-dire, celui qui connaît une des vérités de la volonté de Dieu pour le fonctionnement du monde, et qui ne le dévoile pas, c'est comme celui qui connaît une halakha et ne la donne pas. Parce que la Torah appartient à toutes les créatures. Celui qui connaît une halakha et ne la donne pas, c'est comme s'il la volait de celui à qui il ne la donne pas. Celui qui connaît aussi, celui qui connaît une parole de sagesse du fonctionnement du monde et la cache des hommes, c'est cette espèce d'égoïste de qui il sera dit qu'il est comme s'il avait volé ce qui ne l'a pas donné. Moi, je voudrais, c'est clair, que moi je voudrais ouvrir une petite exception parenthèse. Il nous arrive souvent de cacher des paroles de sagesse ou des paroles de halakha. Pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas ce qu'est la loi et se conduit d'une certaine manière hors la loi, tant qu'il est irresponsable parce qu'il ne sait pas comment est la loi, c'est beaucoup moins grave que s'il savait comment est la loi. Et si on a affaire à quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas se conduire d'après la loi, lui dire comment est la loi, c'est l'envoyer en enfer. Alors on lui cache. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Il vaut mieux. Non, c'est pas clair. Il vaut mieux que quelqu'un n'applique pas la loi sans la connaître que l'applique en la connaissant, parce que là il est plus coupable. Je crois que je me suis mal exprimé, je ne voudrais pas que vous entendiez des bêtises. Mais est-ce que c'est clair maintenant? Bon, alors ça demande beaucoup d'adresse, beaucoup de erreurs, beaucoup d'art. Vous comprenez, ce qui est arrivé depuis assez longtemps, c'est qu'on a perdu la règle traditionnelle de l'enseignement, c'est qu'on enseigne à un à la fois. Est-ce que c'est clair, d'accord? Alors on enseigne comme ça en public, et on est obligé de donner une formulation qui est vraie pour l'un, mais pas encore pour l'autre, déjà plus pour l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le règne de l'arbitraire. La vie traditionnelle, c'est que quand un juif demande qu'est-ce que dit la Torah pour moi, le rabbin lui répond à lui. Il ne répond pas en public. Enfin, c'est pas qu'il ne répond pas en public. Il ne répond pas pour le cas moyen. Il n'y a pas de cas moyen, chacun est ce qu'il est. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je voudrais bien que ça ne soit pas mal compris. Parce que c'est très facile de dire, eh bien voilà, c'est écrit comme ça. Comme ça tu fais. Et tu multiplies par 600 000, tu multiplies par le nombre de juifs qu'il y a sur la planète. Alors on n'a pas besoin de toi, s'il suffit de savoir mécaniquement qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Quand on pose une question d'ailleurs, c'est parce que moi j'ai une question, réponds-moi à moi. Ça y est, c'est clair? Voilà, ça te partage ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu me cites ce qu'il y a écrit dans le livre, j'ai pas besoin de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Avant. Si vous voulez, ça vous apprenez dans tous les midrashim sur la paracha de Matot ou Matsai. Les lois concernant le fait de lever un vœu étaient données aux chefs de tribu. Pourquoi? Chacun connaît ses juifs. Et chaque chef de tribu sait, dans ma tribu, ça c'est un vœu, ça c'est pas un vœu. Ça on lève, ça on lève pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une connaissance psychologique. Chaque rabbin connaissait ses juifs. Aujourd'hui, c'est Efkerout. Pas Efkerout, je sais pas comment dire. Il y a une espèce de amalgame qui fait que tout le monde est censé être théoriquement au même niveau, et alors, finalement, je trouve pas les mots, mais vous comprenez l'idée, finalement, on donne une réponse théorique à un peu de société de robots, hein, un peu de société où tout le monde se donne au même niveau de cheminement spirituel et c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe, c'est-à-dire on risque de transformer la tradition orale en de nouveaux traditions écrites. C'est-à-dire de tomber dans le piège du sadducéisme. De transformer quelque chose qui est de l'ordre de la relation, de volonté à volonté, de personne à personne et de discours à discours, de parole à parole, de la transformer en une situation d'ivresse, en situation déjà de société de termitières, de fourmilières. Vous avez compris l'importance du problème. C'est pourquoi je voudrais, avant d'oublier, simplement rappeler ça. Il arrive qu'on viole cette règle, mais c'est pour sauver l'interlocuteur. Et très souvent, ça nous met dans des angoisses et dans des impasses. On ne sait pas. Est-ce que je vais lui dire comment est la loi? Parce que je sais qu'il ne va pas l'accomplir. Alors, tant qu'il est encore ignorant, c'est moins grave.
Est-ce que c'est clair?
Oui.
Le
problème
était de faire une vérité, parce qu'en la faisant, on évite une mort. Alors que, par exemple, si on la dit, ça peut avoir le contraire de façon interdite.
Exact. C'est ça.
Alors, la loi, donc, est que la vérité ne doit pas forcément être dite, mais doit être entendue, même s'il faut la faire.
Dès qu'elle peut être entendue, alors elle est dite. Dès qu'elle peut être entendue. Mais c'est ce que vous ajoutez. Ce serait possible de dire exactement à chaque moment de chacun comment est la loi pour lui, si on était dans le temps traditionnel où un maître enseignait à un élève. Mais dans ce temps, si vous voulez, où l'enseignement est sur la place publique, il y a aussi d'autres avantages, d'autre part. Alors on est parfois je vais vous dire quel est le résultat. C'est que le résultat est tout simplement que ceux qui sont aujourd'hui, maintenant, à ce stade, ils entendent, ils se constituent en communauté, mais cette constitution de communauté rejette les autres irréversiblement. Alors que les autres étaient dans leur chemin de recherche. Et d'ailleurs, tout le monde est en chemin de recherche. Mais les autres étaient dans leur cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi on referme la parenthèse. Est-ce qu'il y a une autre question?
Est-ce qu'on peut dire que la conscience sans la science, ça n'est rien?
Exactement. La conscience sans la science, c'est tout mon potentiel, mais ça n'est rien encore en réalité dans le monde. Je donne un petit exemple que je cite souvent. Je parle de court-circuité de raisonnement, mais vous avez suivi, j'espère. Chaque fois que l'on fait le célèbre Pessah, alors la clôture c'est Hasal Sidur Pessah Keilchato Keshem Shezachinu Lesadevoto Kach Niskela Asoto. Et ça veut dire, nous avons terminé le cérémonial de la commémoration de Pessah de même que nous avons mérité d'en faire la commémoration, que nous méritions de le faire. De quoi s'agit-il? De même que nous avons mérité de faire le zecher, la commémoration de la sortie d'Égypte, de la Géoula, de la délivrance, de même que nous méritions de vivre cette délivrance, de le faire dans la réalité. Est-ce que c'est clair? Voilà la différence entre potentialité et réalité. Vous savez, on dit souvent, je reviens à une de mes obsessions familières, on dit souvent Eret Israël Beli Torah Ikevur Beli Nshama. C'est-à-dire Eret Israël sans la Torah, c'est un corps sans âme. Et bien vous avez vu qu'est-ce que c'est une fois une âme sans corps? C'est un fantôme. Oui, ça va un peu dans le sens de votre c'est clair. Bien. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on avance.